à tous et à toutes, bienvenue dans La Lorgnette, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ce soir, jusqu'à 18h, nous vous proposons une lorgnette hors série. Vous allez écouter la captation d'une table ronde autour de la cybersécurité. Organisée par l'association Loire-et-Cher Tech, dans le cadre du Festival du Numérique qui a eu lieu en juin dernier à la Cité du Numérique à Blois, ce débat a réuni des spécialistes des enjeux de la sécurité numérique. Une conversation passionnante à écouter tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous rejoindre. On va commencer donc cette table ronde sur la cybersécurité par présenter les quatre intervenants qui sont avec moi, et chacun son tour en partant de ma gauche.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Jean-Pierre Marbet, je suis ingénieur en cybersécurité et je suis responsable de tous les programmes d'accompagnement des entreprises que nous assurons sur des contrats de cyberassurance chez AXA France.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Larvao, je suis consultant en informatique pour Vinci, la société Vinci.
Bonjour, Sandy Bezo, moi je travaille pour l'AFPA, donc organisme de formation, et je suis détaché pour le ministère pour la fabrication des titres professionnels, notamment un titre sur la cybersécurité. En fait.
Et bonjour, moi je suis Franck Bataille, j'ai dans le civil, on va dire, j'ai une petite entreprise de services numériques, mais à côté de ça, je suis engagé dans le syndicat patronal CPME, donc je suis président de la CPME 41, et aussi j'ai un mandat national au comité exécutif en charge du numérique et de l'innovation, donc je représente les petites et moyennes entreprises auprès des différents interlocuteurs de la cybersécurité et de l'innovation, l'ANSSI et tous les autres. Voilà.
Merci pour cette présentation. On va essayer, on s'interdira pas de rentrer dans le technique. On va essayer, ceci étant, de rester assez généraliste pour pas perdre trop tout le public. Moi compris d'ailleurs, je suis un novice dans ce sujet. Pour commencer, la plateforme gouvernementale Cybermalveillance sort chaque année son rapport annuel des actes de malveillance numérique. Côté entreprise et association, le classement est celui-ci. Le rapport date de 2023. Le piratage de compte en première position, le hameçonnage, le rançongiciel, les faux ordres de virement, les violations de données, la défiguration de sites internet, le déni de service, le piratage informatique, les virus et le faux support technique. À noter que dans ces actes de malveillance numérique, donc les trois premiers, le piratage, le hameçonnage et le rançongiciel, correspondent à 61% des attaques. Donc ça représente quasiment les deux tiers de ces 10 actes de malveillance. Donc est-ce qu'on peut représenter ces trois actes spécifiquement pour que ce soit bien clair de ce que sont les trois plus grosses façons de se faire déranger dans son entreprise sur son service numérique.
Clément. Je vais commencer par le rançongiciel.
Ouais.
Donc en fait, le principe, c'est que vous avez un attaquant qui va compromettre votre système informatique, que ce soit votre ordinateur chez vous ou un ensemble d'ordinateurs dans une société. Et son objectif, en fait, ça va être de vous soutirer une rançon, d'où le nom rançongiciel. Et pour ça, en fait, il va vous bloquer, il va vous empêcher de travailler et il va vous demander une rançon qu'il va falloir payer, en théorie, pour vous redonner l'accès à l'ensemble de votre système d'information et continuer à fonctionner. Donc, c'est vraiment objectif, obtenir une rançon.
Est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous ou Clément, pour poursuivre, peut nous dire aussi donc, à quoi correspond assez concrètement un piratage de compte et puis le hameçonnage ?
Je peux en faire un petit bout sur le côté hameçonnage, on va dire, puisque c'est quelque chose que l'on rencontre de manière assez fréquente. Hein, donc des messages que l'on reçoit qui semblent provenir d'une personne qu'on connaît ou d'une organisation qu'on connaît ou avec laquelle on a l'habitude de travailler. Et d'ailleurs, c'est de mieux en mieux fait, hein, puisqu'il y a un peu d'ingénierie sociale autour de tout ça. Donc généralement, c'est vraiment très bien ficelé. Puis avec l'IA maintenant, plus de faute d'orthographe dans l'hameçonnage. Avant, c'était assez simple, on les reconnaissait. Maintenant, on ne les reconnaît plus. Et le but du jeu étant derrière de vous faire soit télécharger une pièce jointe corrompue, soit de cliquer sur un lien malveillant et d'aller derrière récupérer des informations de connexion, ce genre de choses, les trucs hyper typiques que l'on trouve, ce sont des liens vers des drives, par exemple, pour consulter un document ou quelque chose comme ça. On vous demande des identifiants. Si vous êtes sur du Microsoft 365 ou du Google ou ce genre de choses, on vous demande des identifiants Google ou 365. Et vous, vous mettez vos identifiants, pensez que vous allez voir un document qui vous est adressé, mais en fin de compte, ils font juste que récupérer vos logins et vos mots de passe. Voilà, donc c'est assez, assez bête, mais c'est très efficace, on va dire. Quoi. Donc, et ça marche bien. Surtout qu'ils savent si vous êtes sur Google ou pas, en allant voir les enregistrements MX et des choses comme ça, ils savent si vous êtes, chez quel opérateur vous êtes.
Et en dernier, donc le plus important, le piratage de compte. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait pirater son compte entreprise, Sandy?
Mais en fait, on va simplement, c'est pareil, en fait, à la base, ça peut commencer par un hameçonnage, tout ça, en fait, ça peut être aussi une intrusion dans un système d'information. En fait, avoir un compte piraté, c'est ni plus ni moins que ces identifiants login et mot de passe sont diffusés ou utilisés par une personne malveillante. La problématique, c'est qu'après, une fois qu'il y a l'intrusion qui est faite, il y a une propagation qui peut se faire à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est là qu'en fait, après, c'est des dominos cascades. Et en fait, on se retrouve avec des personnes qui vont commencer par de l'hameçonnage, puis après du piratage de compte, puis après, on va avoir du rançon logiciel. Tout ça s'enchaîne
facilement.
C'est
un effet boule de neige.
Et après, en fait, c'est là que on détecte l'intrusion une fois que c'est trop tard, en fait, où le ransomware a été lancé. Et en fait, le chiffrement est établi. Toute l'entreprise est bloquée, et voilà quoi.
Quel est le cheminement d'une structure qui va être victime d'une de ces attaques malveillantes? Donc voilà, un piratage de compte. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai cliqué sur un fameux lien pour ouvrir un Google Doc sur un faux drive. Qu'est-ce qui se passe après?
Ce qui va se passer, ça dépend des types de pirates informatiques et de leurs objectifs, mais si on reste sur la cybercriminalité, l'objectif, c'est de l'appât du gain. L'appât du gain, c'est donc un objectif financier qui va se faire de deux façons essentielles. La première, on l'a cité, c'est bloquer les données de l'entreprise. Une entreprise, chaque entreprise, maintenant, c'est rare quand une entreprise a encore des classeurs papier comme à l'ancienne, tout est numérique. Et une entreprise qui n'a plus accès à ces données, c'est une entreprise qui ne peut plus véritablement travailler. Donc l'objectif du ransomware, c'est bien évidemment de chiffrer les données, je bloque les données, et comme ça a été dit, effectivement, je demande une rançon en échange. Donc le premier apport financier, on va dire, ça va être le paiement de la rançon. Ça, c'est la première chose. Mais souvent, ce qui se passe en parallèle du blocage du système informatique de l'entreprise, du chiffrement des données, en amont de ça, avant de déclencher la charge active du malware, en amont, les attaquants auront exfiltré un certain nombre de données qu'ils pourront revendre après. Grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que si on parle de chiffre d'affaires, c'est tant que la cybercriminalité soit une entreprise, on estime qu'il y a à peu près 70% du chiffre d'affaires des cybercriminels qui sont liés à la revente de données sur le dark web et 30% qui sont liés au ransomware. Alors comment ça se passe pour arriver à ces fins et à cet objectif? L'objectif de l'attaquant, en fin de compte, c'est de rentrer dans le système informatique de l'entreprise. Pour ça, grosso modo, il a deux leviers principaux. Le premier, c'est d'exploiter une faille humaine et donc il va envoyer un mail de phishing, on l'a évoqué, et donc ça va être un vecteur d'attaque, et donc je ne reviens pas sur ce qui a été dit. Voilà, l'employé qui clique là où il n'aurait pas dû cliquer, et à ce moment-là, le verre est dans la pomme, je dirais, et à partir du moment où le code malveillant, le malware est dans un poste de travail, il va pouvoir, ce que l'attaquant va essayer de faire, c'est à ce moment-là de se latéraliser, on appelle, c'est-à-dire de passer de poste de travail en poste de travail, de serveur en serveur, de façon à compromettre, à avoir une cartographie maximale du système informatique de l'entreprise. Et puis, avec la latéralisation, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer d'élever ses privilèges pour passer d'un compte utilisateur à un compte administrateur. À partir du moment où il est administrateur du système informatique de l'entreprise, à ce moment-là, il est maître du système informatique puisqu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut déconnecter, débrancher les dispositifs de sécurité, etc., etc., cartographier tout. Et ensuite, il a l'exfiltration de données et in fine, il va chiffrer les données de l'entreprise si on raisonne sur un scénario de ransomware. Grosso modo, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc ça, c'est le point d'entrée via une faille humaine par ingénierie sociale, etc. L'autre point d'entrée, c'est d'exploiter directement une faille technique, puisqu'il y a un certain nombre de composants informatiques de l'entreprise qui sont exposés sur Internet. On peut penser à des logiciels ou à des applications web. On peut penser à la messagerie, si la messagerie n'est pas sécurisée. S'il y a des défauts de configuration, de mise à jour, de patch management, à ce moment-là, ces dispositifs sont fragiles et présentent des failles de sécurité. Et l'attaquant n'a pas besoin de passer par l'humain. Il peut exploiter directement une faille humaine. Et là, on arrive rebelote. Il est rentré dans le système informatique, il a pris possession d'un serveur, etc. Et après, il va remonter la chaîne, latéralisation et l'évaluation des comptes. Il fait ce qu'il a à faire en termes d'exfiltration de données et il va bloquer après et demander une rançon, par exemple. Donc, le mode opératoire d'un attaquant de façon synthétique, c'est celui-là, ce qu'on appelle une kill chain en langage un peu plus technique.
On voit bien l'effet boule de neige qui se déploie. Oui,
oui, juste pour préciser, par exemple, la semaine dernière, en fait, la société Adeco a été piratée. En fait, c'est un stagiaire qui a revendu son login et son mot de passe. Je peux sans dire de bêtises, je crois que c'est 15 000 euros dans ce qu'on appelle le dark web. Donc, c'est toute la face cachée, la criminalité qui circule sur le web. Et donc, grâce à ça, les pirates, je crois, ont eu accès à 70 000 comptes utilisateurs. Donc, si vous avez un compte chez Adeco, je vous invite à changer votre mot de passe. Mais voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand une entreprise elle est piratée, elle est obligée de déclarer en fait, ce piratage à ses utilisateurs. Ça, c'était pour faire un parallèle. Justement, pour que l'utilisateur prenne des mesures, pour changer les mots de passe, etc. Donc voilà. Après, il y a différents types d'attaques. Vous avez des attaques un peu élaborées, comme on vient de les décrire. Après, vous avez des attaques assez simples qui en gros, c'est ça marche ou ça marche pas. L'hameçonnage, c'est typiquement ça. C'est je clique, l'utilisateur a cliqué, tant mieux, j'ai accès à ces données. Je clique pas, je passe à autre chose.
Et je tente une autre structure.
Par contre, dans le cadre de grosses entreprises, ça peut être beaucoup plus complexe. Et il y a des gens qui, en fait, je sais plus, peut-être que vous connaissez le chiffre, mais je crois qu'entre le moment où l'attaquant arrive à se connecter sur le système d'information d'une entreprise et le moment où il déclenche son attaque, c'est, je crois, presque 3 mois. Donc pendant 3 mois, il observe et il met...
Pendant 3 mois, on peut être complètement ignorant sur le fait que y a le verre est dans la pomme pour reprendre
l'expression. Pendant ces 3 mois, il met en place une stratégie qui va déclencher un instant T, généralement un vendredi soir, comme ça, il est sûr que...
Il a bien 48 heures.
Un vendredi soir en France.
Enfin bon, voilà, donc il y a plusieurs types d'attaques. Et donc, ça peut venir de failles techniques comme de failles humaines.
Vous parliez de grandes entreprises comme Adeco. On entend parler de grands piratages de comptes auprès des grandes entreprises. J'ai vu, ceci étant, sur les chiffres de 2022, sur 385 000 cyberattaques réussies, 330 000 concernent des PME. Ça fait 85%. Donc évidemment, on n'en entend pas parler quand c'est pas Adeco ou Microsoft ou je ne sais quoi. Donc on peut supposer que les PME sont moins informées, moins formées, moins équipées. Comment on peut faire pour
clairement, elles ont l'inconvénient d'avoir moins de moyens. Voilà, tout simplement, l'inconvénient d'avoir moins de moyens, d'avoir peut-être un peu moins peur, d'avoir un peu moins la culture de la sécurité numérique et de se dire qu'à un moment donné, ça devient aussi important que la protection incendie ou ce genre de choses. Voilà, ils vont peut-être faire plus attention à certains sujets un peu plus traditionnels, mais moins à des sujets cyber, parce que les sujets cyber, pour eux, c'est un peu, voilà, ça leur passe au-dessus. J'ai l'habitude, effectivement, de dialoguer avec ça.
Ça n'arrive qu'aux grandes machines, à l'éco, etc.
Ça n'arrive qu'aux grandes machines. Et que
l'entreprise n'intéresse personne, enfin,
ouais, voilà,
pas les cyber.
Et que derrière, même si on leur propose de faire des choses un petit peu, par exemple, sécuriser les messageries, truc typique, on commence déjà par ça. Et qu'on nous dit, oui, mais il va falloir que je change la signatique de mon camion, je suis obligé d'enlever mon adresse wenadoo.fr, voilà, que j'ai depuis 17 ans. Vous vous rendez compte, il faut que je change toutes mes cartes et tout. Je dis, oui, il faudra le faire, parce que de ce côté-là, aujourd'hui, sécuriser des messageries grand public, on va dire, pour un usage professionnel, c'est pas possible. Il faut déjà commencer par le commencement, par des choses simples. Mais même avec, en leur parlant, je dirais, avec leur langage, moi, j'essaye d'adapter toujours même étant, je dirais, dans le domaine technique, j'essaye toujours, quand j'interviens auprès de cette population de chefs d'entreprise, TPE, PME, d'avoir, de leur parler de choses, on va dire, terre à terre, avec des choses qui peuvent leur arriver vraiment facilement. Il n'y a pas très très longtemps, c'est sorti dans ENR la semaine dernière, un garage du Vendômois, dont on n'a pas mis le nom dans l'article, mais un garage du Vendômois s'est fait piquer 6 000 euros parce que derrière, il s'est fait pirater sa messagerie Wanadoo, je ne sais quoi, et il a écrit, donc l'attaquant avait accès à la messagerie, super, donc il a regardé un peu tout ce qui rentre, tout ce qui sort, il a vu qu'il y avait un devis accepté qui avait été envoyé quelque part, qu'il y avait un acompte à verser, donc il a envoyé un faux RIB en disant, voilà, il faut m'envoyer sur ce RIB-là parce que j'ai changé de banque, puis terminé, l'affaire est faite. Et ça, c'est extrêmement fréquent, plus qu'on ne le croit, et même sur des changements de... Le truc le plus à la mode, c'est les changements de RIB pour les salariés aussi, ça c'est très très à la mode, quoi. Donc en 10 ans, et là les salariés, ben, c'est facile de les trouver, si on a accès c'est la messagerie, on voit un peu toutes les adresses e-mail des salariés. Si on voit l'ingénierie sociale, les plaquettes commerciales, enfin bon, tout est là pour savoir qui travaille où, qui fait quoi quelque part. Et là, bah, dans une petite boîte, quand on envoie à la dirigeante ou au dirigeant quelque chose d'administratif, bah, en règle générale, les experts comptables se font aussi beaucoup taper là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. Et là, ça vient encore d'autres données publiques. Les gens vont sur Papers, ils regardent l'entreprise, ils vont chercher le dernier bilan, ils regardent quel est l'expert comptable qui a signé le bilan, et hop, c'est parti, ils sont passés pour l'expert comptable. C'est tellement facile, tellement facile. La transparence, ça apporte parfois à son lot d'insécurité.
On comprend bien donc, que les petites entreprises sont plus vulnérables parce que donc, moins informées, moins équipées. On se demande quand même des fois comment ça peut arriver à des grosses entreprises qui paraissent largement équipées. Voilà. Alors, il peut y avoir des actes de l'intérieur comme vous le détaillez pour Adecco, où là c'est vraiment un facteur humain qui est rentré en jeu et j'imagine que même avec un bon système de sécurité, ben, on ne pouvait pas éviter ça. Mais quand ça arrive à des grandes entreprises, comme on en entend parler des fois dans des médias, qu'est-ce qui fait qu'une grande entreprise, pourtant très au fait, avec, j'imagine, des grands services de numérique et de cybersécurité, réussisse encore à se faire pirater ?
Bah, plus votre entreprise est importante et plus vous avez un système d'information qui est important et qui est surtout très hétérogène. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de systèmes différents. Et en fait, plus vous avez de systèmes hétérogènes, et plus c'est difficile à sécuriser, parce que chaque système se sécurise d'une manière différente, pour simplifier. Et donc, vous avez toujours une faille quelque part. Moi, par exemple, j'ai eu un conseil départemental pendant le Covid, qui était très sécurisé, de la région en plus. Je ne citerai pas lequel. Au moment du Covid, ses salariés, comme tout le monde, restent chez eux. Et pour pouvoir permettre à leurs salariés en fait, de travailler à distance, ils ont réallumé un équipement qu'ils avaient dans un placard en urgence parce qu'il fallait pouvoir permettre à leurs employés de se connecter à distance. Et comme cet équipement était ancien, il avait ce qu'on disait des failles de sécurité. Et donc, du coup, ils n'ont pas eu le réflexe d'appliquer des correctifs. Et du coup, les attaquants sont passés par là. Donc, en fait, un système d'information, c'est assez complexe. Il y a beaucoup de strates différentes. Vous avez la partie matérielle, logicielle, applicatif, métier, utilisateur. Donc, en fait, c'est assez complexe. Et vous seriez étonné. C'est pas parce qu'il y a des grosses entreprises qu'il y a forcément des systèmes d'information récents et sécurisés, okay. etc. Voilà.
Et des systèmes mis à jour ? Oui, Jean-Pierre.
Oui, pour compléter, donc effectivement, plus l'entreprise est grosse, plus le système est complexe. Et un système complexe, c'est quand même difficile à maîtriser. Déjà, ça démarre idéalement dans les bonnes pratiques par d'avoir un schéma sur son architecture réseau et déjà un schéma à jour, et déjà, c'est pas simple. L'entreprise, par-delà la complexité, une grosse entreprise, peut se faire attaquer par sa chaîne de sous-traitance, sa supply chain. Et là, on revient à l'échange de tout à l'heure sur les TPE-PME qui sont des sous-traitants. Et comme on dit, la robustesse d'une chaîne vaut ce que vaut son maillon le plus faible. Et le maillon le plus faible peut être un sous-traitant qui, lui, a moins de moyens, est mal protégé, etc. Il suffit que les deux systèmes soient interconnectés. Et les cybercriminels ont parfaitement compris que de s'attaquer frontalement à une grosse entreprise, ça pouvait être difficile. En revanche,
beaucoup moins de s'attaquer
dans le château fort par le pont-levis, ça peut être très, très compliqué. Par contre, si je fais le tour des murailles encore. Peut-être que j'aurais un micro-trou de souris dans un coin et je pourrais passer par là. Et le micro-trou de souris, c'est la chaîne de sous-traitance. Voilà. Donc, avec une directive qui est en cours de transposition, on va penser comme ça, on va être optimiste. Hein. Ouais. Donc, il s'appelle NIS 2. Un des objectifs, justement, de cette directive européenne est pour les grandes entreprises de gérer leur chaîne de sous-traitance. Ça en fait partie parce que tout le monde sait maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi des attaques par rebond, que cette grande entreprise peut malheureusement être victime d'une défaillance en cybersécurité de l'un de ses sous-traitants. Voilà.
Là, justement, oui, sur cette nouvelle réglementation, j'ai eu l'occasion d'être auditionné au mois de juin moi, par les députés en charge de la commission spéciale sur le sujet, donc pour exprimer, on va dire, le point de vue des TPE-PME dans cette affaire-là, dans le projet de loi cyber-résilience et tout ce qui va avec, où en particulier, il était question de cette affaire de supply chain, de dire que derrière, au même titre que pour la responsabilité concernant les données personnelles, tout est interconnecté et tout le monde est interresponsable. On arrive dans un phénomène de santé publique, on va dire, où tout le monde et même des individus peuvent être aussi des vecteurs, des personnes clientes, on va dire, même des entreprises peuvent devenir des vecteurs. Et le gros sujet, ça va être de se dire, mais comment est-ce qu'on va aider tous ces petites structures autour, parce que les grosses boîtes, elles, pas de problème, tout va bien, elles ont les moyens. Mais les petites structures qui sont autour, toute cette supply chain, comme ils l'appellent particulièrement, moi j'ai envie de dire plutôt toutes les TPE-PME qui travaillent pour eux, celles-là, elles n'ont pas forcément les moyens d'atteindre les niveaux d'excellence qui sont demandés par les grands groupes.
Une fois que le mal est fait, il y a les assurances qui rentrent en jeu, Jean-Pierre. Quel est le rôle de l'assurance cyber, à la fois donc a priori, mais aussi a posteriori des incidents?
Alors, Je vais prendre déjà une métaphore et je vais démarrer par l'incendie. Une entreprise va former ses collaborateurs à la manipulation des extincteurs, va mettre un protocole en disant dans telle zone qui est un peu sensible, qui pourrait exploser, je ne sais pas, il y a une interdiction de fumée. Et puis on a des détecteurs d'incendie, et puis on a des portes coupe-feu, etc., etc. Et donc tout ça pour dire que l'entreprise va déjà assurer elle-même sa sécurité contre l'incendie, et en plus parce que le risque zéro n'existe pas, eh bien, elle va s'assurer pour indemniser le préjudice subi. En cyberassurance, ça devrait être la même chose globalement, où la posture, en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit chez AXA, la cyberassurance arrive en deuxième position, mais ne remplace pas le socle d'hygiène informatique qu'on appelle que toute entreprise devrait posséder, quelle que soit sa taille et son activité, avec des mesures relativement simples déjà à mettre en place et qui permettent de réduire drastiquement la plupart des attaques opportunistes, comme on disait tout à l'heure, versus attaques ciblées.
On ne manquera pas de rappeler l'hygiène informatique à un moment donné de cette conversation.
Ça, c'est la première chose. Donc, la cyberassurance, c'est trois piliers. Le premier pilier, on y pense, j'ai subi un préjudice, je vais être indemnisé du préjudice. Donc, il y a un pilier indemnisation. Le deuxième pilier, c'est de l'assistance. Les cyberattaques arrivent la plupart du temps, les veilles de week-end, les veilles de fériés, les nuits, etc. etc. Le dirigeant, quand il découvre ça, à 3h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, qu'il appelle son prestataire informatique habituel, et s'il ne répond pas, ou si ce n'est pas dans ses engagements contractuels, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se retrouver en difficulté. Donc, au niveau des régions, il y a des structures qui se sont mises en place, comme les CISORT, mais le rôle de l'assurance, c'est l'assistance. Donc, il y a une hotline H24/7 où l'assuré va appeler. Il est mis en relation immédiatement avec un expert dans la réponse à incident qui va lui prodiguer des conseils déjà par téléphone et qui ensuite va devenir le chef d'orchestre pour aider l'entreprise avec les organisations locales habituelles de l'entreprise. Et les compléter, cet infogéreur, etc., pour aider l'entreprise à redémarrer. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, un pilier indemnisation, un pilier assistance, donc dans la gestion de crise, mais dans toutes ses composantes techniques, juridiques, communication de crise et soutien psychologique, parce qu'on n'y pense pas suffisamment. On pense que l'informatique, c'est que technique, mais c'est de plus en plus documenté. On le voit, nous, dans les sinistres qu'on a à gérer. Il y a un stress post-traumatique qui est très, très important et qui peut être équivalent à une agression physique d'une personne. Imaginez le collaborateur qui a cliqué sur le mail de phishing. L'entreprise est à plat, l'entreprise risque de faire faillite psychologiquement.
C'est un peu dur, oui.
C'est un peu stressant, on va dire. Et puis le dernier pilier qui est en amont, c'est un pilier qu'on appelle prévention, mais c'est cybersécurité, c'est accompagner l'entreprise avec son écosystème habituel ou en remplacement d'un écosystème local que l'entreprise ne connaît pas, dans l'identification des actifs numériques qui doivent être sécurisés prioritairement. L'idée, ce n'est pas d'empiler des solutions de sécurité parce que... On peut avoir une illusion de sécurité, mais ce n'est pas parce qu'on n'a qu'une solution de sécurité empilée comme un millefeuille qu'on est plus sécur. Et puis, l'accompagner dans sa montée en maturité cyber pour que cette entreprise ait une maturité en cybersécurité qui corresponde à la réalité de son exposition à la menace. L'idée, ce n'est pas de faire de la sursécurité. Mais à côté de ça, donc pour faire ça, on s'appuie sur tout un écosystème de consultants experts en cybersécurité, à minima, là j'en vois un là-haut qui est labellisé expert, et on va jusqu'à des qualifiés PASI par l'ANSSI. Ah, c'est vous là-haut. Donc, et qualifiés PASI par l'ANSSI en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de plein de critères, mais on s'appuie sur les écosystèmes locaux.
Et là, justement, oui, Franck, et puis après Claire. Je rebondis sur les piliers. Il y en a aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est la judiciarisation de la chose. La judiciarisation de la chose, puisque y a, quand on a un incendie, un cambriolage ou autre, quand il se passe un sinistre et qu'on a soupçon que c'est criminel, bah, y a une enquête. On va dire, voilà, c'est pareil. Il faut donc avoir des réflexes, on va dire, là-dessus. Et là, depuis quelques mois, j'ai le, de par mes mandats à la CPME nationale, j'ai le bonheur de siéger à la CIMA, donc, qui gère cybermalveillance. Et donc, pour le coup, on met l'accent sur l'outil 17 cyber, donc, qui a été mis en œuvre depuis à peu près 6 mois, hein, en gros, et qui permet à n'importe qui qui est victime d'une cyberattaque, de quoi que ce soit lié à l'univers cyber, on va dire, entreprise ou particulier ou autre, mais entreprise en particulier, enfin des entreprises ou des associations, des collectivités, d'être mis en relation, pareil, H24, avec policiers ou gendarmes, spécialisés dans le domaine, et qui derrière vont prendre en charge cette partie judiciarisation, et derrière, éventuellement, oui, mettre en relation plus tard avec, en remédiation avec des experts cyber, avec des CSIRT, enfin bon, avec tout ce qui va bien par rapport à la taille de la boîte et tout ça. Donc ce pilier judiciaire est super important, parce que si vous ne portez pas plainte, et ben derrière, les gens, il leur arrivera rien. Voilà, donc ils continueront à le faire. Donc, et porter plainte, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est inutile, c'est extrêmement utile, et plus, si tout le monde, on va dire, se plaint de quelque chose, on finira par remonter vers les fauteurs de troubles, et on voit qu'il y a quand même de l'action qui est faite là-dessus. Hein.
Pour rebondir sur ce que vous dites, une entreprise qui, ou une organisation, quelle qu'elle soit, qui a assuré depuis la loi LOPMI, il y a une obligation pour cette entreprise, cette organisation victime d'une cyberattaque, de déposer plainte dans les 72 heures qui suivent la reconnaissance et la détection de l'attaque. Donc nous, en tant qu'assureur, on va accompagner notre assuré dans ce dépôt de plainte, c'est important. Et pour aller plus loin par rapport à nos experts de réponse à incident, c'est comme une scène de crime, hein. L'idée, ce n'est pas de mettre de l'eau de Javel et d'effacer toutes les traces d'ADN. On va accompagner l'entreprise à redémarrer l'entreprise, mais on assure également la préservation de la preuve numérique qui vont permettre aux enquêteurs des forces de l'ordre, de police, gendarmerie et de justice de pouvoir mener leur enquête pour essayer d'arrêter les méchants, on va dire. Donc effectivement, c'est un point très, très, très important.
Clément, vous vouliez compléter.
Non, pour continuer la métaphore, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au même titre que les entreprises font des exercices d'évacuation incendie, normalement, dans les structures assez importantes, les équipes informatiques doivent simuler aussi des attaques et avec des mises en place de cellules de crise. Donc, normalement, c'est des choses qui sont anticipées. Après, entre ce qu'on fait en exercice et ce qui se passe en réalité, c'est toujours différent, mais en tout cas, on essaye d'anticiper au maximum les mesures à prendre en cas d'attaque.
Toujours sur l'assurance, et pour qu'on finir sur ce sujet spécifiquement, est-ce que, pour faire un parallèle, est-ce que le changement climatique et la cybersécurité, c'est le même combat ? On sait que les assurances jouent déjà un rôle clé par rapport aux catastrophes climatiques qui se multiplient. Est-ce que ça va être pareil pour la cybersécurité avec des actes qui sont peut-être en perpétuelle augmentation ou plus important ou ça, ou tout ça.
Quand vous dites même combat, c'est-à-dire
C'est-à-dire, est-ce que les assurances vont être de plus en plus au cœur des dispositifs concernant la cybersécurité, comme elles le sont
De prévention,
d'indemnisation, etc.
Historiquement, un assureur, il gère les risques, par définition, des risques d'entreprise. Historiquement, le risque initial, on ne va pas faire l'historique de... du marché de l'assurance, j'en serais même incapable, mais c'est l'incendie. Pourquoi maintenant les entrepôts logistiques sont équipés notamment de dispositifs de sprinklers, c'est-à-dire d'arrosage automatique,
d'arrosage, ouais.
C'est venu par le monde de l'assurance. Mm. Donc, au moins, il est clair qu'on a un rôle à jouer, qui a un rôle. Je parle même pas de contrat et de business, etc. Je parle. L'assurance a un rôle à jouer au niveau sociétal pour contribuer à son niveau, comme les CPME, comme les CCI, comme beaucoup d'acteurs, à acculturer les dirigeants, notamment des TPE-PME, qui ont un certain nombre de perceptions erronées. On l'a évoqué tout à l'heure. Nous, on le voit tous les jours. Nous, on en a identifié plein, mais je vais en citer 5. C'est tous les jours qu'on a ça. Je suis trop petit. Je n'ai pas de données sensibles. Je n'intéresse pas les hackers. Mes données sont dans le cloud, donc je risque rien. Et puis, de toute façon, c'est trop technique, donc je laisse ça à mon prestataire informatique. Il faut lutter contre ces perceptions erronées parce que c'est un risque stratégique pour l'entreprise. Les conséquences sont des conséquences métiers d'une cyberattaque réussie. Ça peut être un arrêt d'activité qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plus. C'est un impact sur la confiance et la réputation et sur l'image de l'entreprise. C'est bien évidemment un impact juridique. Il peut y avoir des engagements de responsabilité. Et puis, in fine, c'est un impact économique. Donc, on ne peut pas dire c'est technique. Oui, c'est technique et je laisse ça à mon prestataire informatique. Oui, sur le plan technique. Mais l'enjeu en termes d'exposition des entreprises, notamment TPE-PME, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, et notamment les conséquences qui peuvent aller jusqu'à mettre en danger la pérennité de l'entreprise, c'est un risque stratégique de l'entreprise. Donc il est important de prendre son bâton de pèlerin, et nous on le prend, on a des partenariats avec les forces de l'ordre, de façon à co-animer des actions dans les territoires, en soirée, auprès des dirigeants, pour à notre niveau porter la bonne parole, pour essayer de lutter contre ces perceptions erronées, etc., et en leur donnant voilà, quel est l'état de la menace, mais très simplement, le message étant de dire toute entreprise peut être victime d'une cyberattaque, c'est ça le message, quelle que soit sa taille et son activité, quelles seraient les conséquences éventuellement possibles, et puis il y a des moyens relativement simples de se protéger, qui sont peu coûteuses, déjà... on ne laisse pas sa porte ouverte quand on part faire ses courses, mais on la ferme à clé avec une serrure. C'est des mots de passe, c'est de l'authentification multifacteur, c'est d'avoir des sauvegardes, c'est d'avoir un antivirus, et puis même de l'EDR si on peut. Enfin, c'est d'avoir un minimum de choses qui sont de l'hygiène informatique, et c'est de rappeler ça. Et c'est de rappeler aussi qu'au niveau étatique et institutionnel, de façon générale au sens large, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont méconnus. Je pense à mon aide cyber ou à d'autres dispositifs qui permettent à l'entreprise d'avoir un diagnostic fait par un sachant, expert dans le domaine. C'est gratuit en plus pour l'entreprise. Et de savoir un petit peu où elle en est, c'est un premier diagnostic. Ce n'est pas un audit, mais un premier diagnostic qui permet un petit peu de savoir où l'entreprise en est et d'avoir un certain nombre de priorités qui vont lui permettre de mettre le pied à l'étrier de la cybersécurité de façon structurée. Et donc, ce sont des dispositifs que nous, on pousse. Voilà.
Sur la partie, justement, aussi humaine, là, pour le coup, hein, vous parliez tout à l'heure des dispositifs cybermalveillance. Il y a le dispositif sans cyber qui existe, pas dans cybermalveillance, dispositif sans cyber qui, sous forme de 3 modules, à peu près de 40 minutes de e-learning en boucle, qui permettent d'avoir déjà la perception des risques, premièrement. Ensuite, derrière, de pouvoir se dire comment je me protège, quelles sont les bonnes actions. Et ensuite, derrière, troisième étape du truc, c'est transmettre. Voilà, c'est le troisième étape de son cyber, c'est de dire OK, j'ai compris ce qui peut m'arriver, je sais quelle attitude avoir, et maintenant, je saurai en parler à mon voisin, ma voisine, pour lui dire voilà, et être peut-être le porte-parole dans mon entreprise, dans ma petite entreprise, d'être le porte-parole de ce sujet-là. Et donc, ces dispositifs-là sont méconnus, effectivement, sont méconnus. On a beau faire des réunions, des webinaires, des machins. Enfin, moi, je passe ma vie à faire ça. Et malgré ça, on va dire, ça reste méconnu parce que derrière, il y a ce phénomène de... Oui, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, comme tout ce qui concerne les risques, hein, on a toujours le même sujet. Hein.
Oui, moi, je compléterais, en fait, que c'est pas uniquement le service informatique qui doit être à la base de la sécurité, c'est chaque salarié de l'entreprise. Et, parce qu'en fait, la faille peut arriver pas uniquement par la DSI, par la Direction des services d'information, mais aussi par le salarié. Et la sensibilisation des bonnes pratiques, ça passe sur du quotidien, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a fait une campagne de phishing pour tester tous nos salariés le 4 juillet qu'il ne faut pas le refaire le 25 août. C'est-à-dire que c'est au quotidien, il faut rappeler les choses.
C'est l'hygiène informatique qu'on rappelait tout à l'heure de chacun et chacune.
Ouais. Voilà, c'est du quotidien, c'est du quotidien, parce qu'on a le droit d'oublier, on a le droit de faire des erreurs, et les petits rappels, c'est important au quotidien, en fait.
Sandy, gardez le micro. On a parlé de cybersécurité en entreprise. Je voudrais qu'on parle d'entreprise de cybersécurité. J'ai lu qu'il y avait quelques dizaines de milliers d'emplois disponibles dans la cybersécurité. Est-ce que déjà, vous qui êtes donc formateur pour l'AFPA, est-ce que vous confirmez qu'on est sur un secteur en pleine montée de puissance en termes de recrutement ?
Oui, et à la fois... Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des métiers qui sont hyper stressants. Enfin, faut pas les vendre comme super simples et tout ça. C'est des métiers qui sont stressants. Et je discutais avec le PDG Cisco France il y a quelques semaines. Et près de 20% des personnes qui font cette activité-là changent de métier tous les ans.
Tous les ans.
20%.
Ah oui, c'est...
Donc,
okay.
Il y a beaucoup d'emplois.
Ouais, et donc beaucoup de turnover.
Et beaucoup de turnover. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait ça qu'une année. Attention,
oui,
j'ai pas dit ça. Hein, j'ai pas dit ça. Mais c'est un métier qui est assez stressant.
Et tous les ans, il y a 20% de la masse qui change de métier.
Donc il y a beaucoup d'emplois. C'est hyper, c'est hyper intéressant comme métier. Attention, mais c'est stressant quand même. Enfin, je trouve que c'est intéressant de le dire à tous des jeunes qui veulent faire ce truc-là. En fait, c'est, il y a beaucoup d'emplois. Et dans toutes les régions. Alors, c'est sûr que quand on prend les grandes villes, Paris, Lyon, il y en a plus qu'à Blois.
Parce qu'il y a les... Voilà.
Voilà. Mais partout, en fait, il y a besoin. Et que pour des grosses entreprises, mais aussi les petites, comme on a vu tout à l'heure, en fait, c'est les petites entreprises, des fois, ne comprennent pas l'enjeu. Et je reviens vraiment sur ce qui a été dit. En fait, c'est important parce qu'ils ne réalisent pas à quel point une cyberattaque peut compromettre complètement l'activité de leur entreprise, et ça peut se terminer par un dépôt de bilan, une cyberattaque. C'est pas juste on est inactif pendant 3 mois, c'est tout à coup on a l'irréputation qui est attaquée. En fait, l'image de l'entreprise est hyper affectée lorsqu'on sait que, par exemple, Sony s'est fait voler tous ses comptes avec les comptes de carte bancaire des PlayStation il y a quelques années. La réputation de l'entreprise en prend un choc aussi, en fait. Donc, mais il y a quand même beaucoup d'emplois, et dans plein de niveaux différents.
Ok. Pour prolonger la question, est-ce qu'on peut donc dire que les métiers de la, enfin le secteur de la cybersécurité est un secteur en tension ? Oui.
Oui, on peut le dire.
On peut le dire. Et donc, est-ce que le milieu de la cybersécurité est un milieu vulnérable ? S'il n'y a pas assez de personnes pour assurer la cybersécurité des entreprises ou des particuliers, est-ce que ça représente un danger pour nous en tant qu'individuels, mais évidemment pour les entreprises, comme on vient d'en débattre pendant déjà.
J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les déserts médicaux. Hein.
Ouais.
C'est pareil, il n'y a pas assez de médecins, il y a plein de gens qui sont malades et ils n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. C'est un peu le même principe, on se débrouille, on fait un peu comme on peut. Il y a des gens qui travaillent effectivement beaucoup. Hein. C'est aussi le corollaire de cela, c'est qu'on se retrouve dans ces situations de surcharge de travail et que les gens en ont marre parce que derrière, ils en peuvent plus. Quoi, voilà. On a ce genre de phénomène qui existe. C'est pour ça que plus on va aller dans le mode prévention, moins on aura besoin d'avoir de stress sur ce mode curatif. Parce que, en gros, c'est comme tout un tas de choses. Hein, la prévention, c'est le sujet numéro un, en particulier pour les TPE-PME. Parce qu'effectivement, comme ils ne sont pas les cibles numéro un, tout ça, machin, bon, il se peut que derrière, ils ne soient pas aussi exposés, quoique ils le sont quand même pas mal. Mais ils peuvent se dire qu'ils peuvent passer au travers des gouttes une fois, deux fois, trois fois. Mais parce que par chance aussi, ça arrive, hein, d'avoir de la chance. Mais plus on aura fait de prévention, plus derrière, on aura moins ce sujet. Quoi. Parce que le gros problème, moi, ce que j'essaie de faire passer comme message, hein, c'est que derrière, on parle d'argent. On parle d'un truc qui s'appelle la perte d'exploitation. Les assureurs connaissent bien ça. La perte d'exploitation. Et la perte d'exploitation, c'est un truc qui est difficile à mesurer dans le cadre d'une cyberattaque. Autant un incendie, les assureurs font ça très bien, ils ont leurs abacs, ils ont l'habitude. C'est quelque chose qui est très ancien, on va dire, le monde de l'incendie. L'actuariat, enfin, les gens qui définissent, on va dire, un petit peu les tarifs, l'assurance, les remboursements, ces choses-là. Enfin, les gens qui... Les sachants, on va dire, dans ce domaine, on va dire... statisticiens, on va dire, parce que le mot actuaire, tout le monde ne connaît pas, mais les statisticiens, derrière, bah, sur la cyber, ça peut être extrêmement variable d'une entreprise à l'autre, mais il y a un bon point de repère qui est quand même la réactivité. Et la réactivité, quand on regarde le bilan d'une boîte, on sait très bien quelles sont les charges fixes, les salaires, les loyers, les machins, les trucs. Et si demain ça s'arrête et qu'il y a zéro chiffre d'affaires, combien il faut pour 3 mois, pour 6 mois? Ça, c'est assez simple à faire.
Dernière question avant de laisser la parole au public, pour revenir sur le recrutement et les emplois en jeu. Est-ce qu'il y a des profils de recrutement au niveau de l'AFPA, alors qu'il y a un organisme de formation pour adultes, on le rappelle, qui fait plutôt de la réorientation, entre autres, notamment. Est-ce qu'il y a des profils un peu type de personnes qui rentrent dans le secteur de la cybersécurité?
Je dirais que c'est surtout avant tout des passionnés en fait.
Ouais.
C'est vraiment des personnes qui sont hyper intéressées par l'informatique, qui peuvent passer des heures et des heures sur un ordinateur sans que ça les dérange, parce qu'en fait, on peut passer très vite 10 heures, 12 heures, 14 heures de suite en cybersécurité. Il y a aucun, enfin, lorsque c'est une réponse à cyberattaque, le temps, en gestion de crise, on gère plus le temps en fait. Là, tout à coup, faut être devant un ordinateur, on peut y être 14 heures de suite. Donc il y a pas vraiment de profil. Homme ou femme,
ouais,
parce qu'au contraire, en fait, les femmes sont très fortes dedans aussi, donc il n'y a pas de. C'est pas genré du tout, ça. Après, en fait, je pense vraiment que c'est un métier de passionné, au même titre que si on est plombier et qu'on est passionné, ça se passe très bien. Mais là, en fait, tout à coup, c'est vraiment des personnes qui doivent être chercheurs. Enfin, il faut savoir détourner l'utilisation première des logiciels, et il faut presque être un pirate informatique pour pouvoir le faire aussi. Enfin, un pirate informatique va passer des heures et des heures à faire quelque chose pour essayer de faire pour aboutir à
connaître les backdoors, voilà, etc.
Et ben en fait, ouais, on est obligé de faire à peu près la même chose en cybersécurité. Donc, c'est beaucoup de temps à passer, beaucoup de temps personnel à passer. C'est pas juste à l'école qu'on apprend. Au contraire, parce que là, c'est une formation qui dure toute sa vie. C'est-à-dire, on sort de
formation
l'école,
de terrain et puis
mais
apprentissage
après, perpétuel. C'est pas parce qu'on est sorti de l'école qu'on a tout appris, parce que l'informatique va tellement vite qu'en fait, bah, c'est dès le lendemain de la formation, si on arrête de se former, on est obsolète. Donc c'est une formation continuellement. Si on prend Franck, qui a quelques années d'expérience en informatique, ce qu'il a appris à l'école et ce qu'il fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Donc voilà. Après, j'ajouterais qu'en même temps aussi, il y a tout un profil d'autodidactes qui sont vraiment très très forts. En fait, faut pas. Il y a beaucoup d'autodidactes qui vont après se former par la suite. Et le fait que ce soit autodidacte, c'est-à-dire qu'aller d'un point A à un point B, ils connaissent plein de solutions. Et là, par contre, ça nous intéresse encore plus en fait, pour le coup.
Jean-Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose et puis on passe la parole au public.
Il y a beaucoup de femmes qui pensent que la cyber, c'est très technique et que c'est un métier d'homme, ce qui est complètement faux. Mais il n'y a pas suffisamment de femmes en cybersécurité parce qu'elles se freinent avec une représentation aussi de dire c'est hyper technique et c'est pas pour moi, ce qui est complètement faux. La cybersécurité, en fin de compte, on parle de métier avec un S, les métiers de la cybersécurité. Bien évidemment, il y a du technique, mais il y a également du juridique. On a vu avec des DPO, par exemple, etc. Il y a de la conformité. On a vu avec NIS 2. Il y a beaucoup de directives européennes. Et donc, l'approche de la cybersécurité par la conformité, on ne va pas entrer dans le détail, mais en tout cas, ça existe. Et donc, il faut ce profil juridique. Il y a de l'organisationnel. Voilà. Et puis, il y a de la continuité d'activité. Il y a de la gestion de crise. Il y a de la réponse à incident. Ce sont des métiers qui sont très riches. Et chacun peut trouver son bonheur, entre guillemets, ou son appétence, même si cette appétence n'est pas technique et même si cette personne n'est pas passée par une école d'informatique. C'est ça le message que je veux dire. Le deuxième, c'est plus pour vous qui êtes dans la salle. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en apprentissage et qui n'arrivent pas. Moi, je le vois parce qu'on reçoit énormément de CV en permanence pour que les jeunes étudiants qui sont en apprentissage, ils ont besoin de lieux de stage et ils ne trouvent pas de lieux de stage. Donc c'est un paradoxe parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde en cybersécurité, il y a beaucoup de besoins. Malheureusement, il y a un certain nombre d'étudiants en apprenti, mais je parle sous votre contrôle, en apprentissage, qui n'arrivent pas à trouver ces lieux de stage.
Là, il y a un autre phénomène, hein. C'est aussi les choses qui ont bougé au niveau de l'alternance. Parce que là, on ne parle pas de stage, on parle d'alternance. Pour le coup, les apprentis, l'alternance, c'est un autre sujet. Il y a des sujets économiques, il y a des sujets juridiques. Enfin, il y a beaucoup de changements qui ont fait que derrière, ça n'a pas aidé, et pas que dans le numérique. Donc là, on est sur un autre terrain, comme on dirait. Mais pour en revenir, pour rebondir juste sur le fait derrière qu'il n'y a pas que des gens qui ont des formations purement numériques qui arrivent dans nos métiers. Moi, j'ai une jeune femme qui va intégrer mon entreprise au mois de septembre, si tout va bien, qui a fait 2 années de droit et une année de licence professionnelle, droit du numérique, mais est étudiante en droit à la base. Hein, voilà, donc elle a rajouté une compétence, on va dire, autour de tout ce qui est données personnelles, conformité, toutes ces choses-là. Et j'aurai le grand bonheur, j'espère, de l'avoir avec, avec nous au mois de septembre. Et donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'est pas informaticienne, n'est pas... voilà, si je lui mets un terminal devant et je lui dis, voilà, tape-moi quelque chose, ça va être un petit peu compliqué. Mais ce n'est pas, pas ce que je lui demande.
Son domaine de compétence sera
son domaine de compétence est un autre domaine que moi, je n'ai pas, qui va être effectivement d'aller au contact des personnes pour pouvoir remplir des registres de traitement, remplir, faire de la conformité. Enfin, c'est un autre truc. Et la cyber, c'est aussi ça. C'est aussi cette partie documentaire, échange, formation, sensibilisation. Et un technicien n'est pas forcément, n'est pas généralement pas doué pour faire ça, puisqu'il aime bien rester dans son coin et tranquille.
Merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire pour prolonger la conversation?
Alors moi, j'ai juste une petite question, parce qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA, du coup, ne va pas redistribuer les cartes pour les pirates et pour la sécurité?
Oui, j'ai envie de te dire, Antoine, que c'est déjà fait, quoi. C'est déjà fait quand l'exemple du phishing en est un exemple criant. Avant, les gens qui faisaient du phishing, ils faisaient des trucs vachement bien en anglais, mais en français, c'était un peu merdique en règle générale. Et les attaques n'étaient pas personnalisées. Aujourd'hui, des petits robots bien écrits, avant d'envoyer une attaque, vont par exemple vérifier dans quelle cette personne parle français, parle pas français, avec de l'ingénierie sociale, va aller vérifier dans les bases DNS, voir chez quel, s'il est chez Microsoft ou chez Google pour sa messagerie, comme ça on lui enverra un lien qui correspond à du SharePoint, du Drive en fonction de chez qui il est. Enfin, on va faire tout ce qu'il faut pour que l'attaque, enfin le mail qu'il va recevoir soit le plus personnalisé possible. Voire on va aller choper dans son compte LinkedIn des gens avec qui il bosse, des organisations, tout ça, et comme ça, on va envoyer un mail au nom de l'organisation en question. Enfin, tout ça, ça s'automatise. Avant, c'était des gens qui devaient le faire, et maintenant, c'est un robot, une IA, donc, qui peut faire tout ça, et qui peut envoyer des attaques super personnalisées, et pendant ce temps-là, les gens qui ils comptent les billets, ils boivent des bières, et voilà, quoi, donc ils sont tranquilles.
Et à l'inverse, l'IA, aujourd'hui, est beaucoup utilisée en fait, dans la détection des cyberattaques au sein des entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, une cyberattaque, en fait, c'est un utilisateur qui a un comportement inhabituel dans une entreprise. Par exemple, quand on chiffre des fichiers, on va modifier beaucoup de fichiers. Et l'IA permet, par exemple, de comprendre en fait, le fonctionnement, je dirais, quotidien d'un utilisateur. Et si, à un instant T, il y a un comportement qui dévie de cette utilisation normale, bah après, il y a un certain, donc ça peut être la signature d'une cyberattaque. Et après, il y a un certain nombre d'actions qui sont à mener. Mais en tout cas, l'IA est utilisée pour détecter les cyberattaques aujourd'hui.
C'est dans les deux sens. Hein, l'IA est un outil et dépendant malgré tout de ce qu'on en fait, même si on considère des fois qu'il est tout à fait autonome. Je vous rejoins.
Nous, on voit au-delà du phishing dans les fraudes, notamment les fraudes au président, où l'IA est capable d'imiter la voix, l'intonation du patron. Et Gisèle à la compta, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, mais Gisèle à la compta reçoit un coup de téléphone et pense que c'est son patron. C'est vraiment la voix du patron qui lui dit voilà, tu vas virer tel compte pour telle raison, c'est secret, machin, enfin bref, sur tel compte dans un pays X. Et puis Gisèle à la compta, elle pense vraiment que c'est son patron parce que c'est une IA qui a déformé, qui a repris la voix, la tonalité du patron. Donc. Ça sert effectivement à la défense, mais l'attaque a toujours un temps d'avance quand même par rapport à la défense la plupart du temps.
Et d'ailleurs, ce phénomène justement de l'usurpation même vocale fait que dans des boîtes, moi j'ai mis des trucs en place qui sont très basiques mais très bêtes, qui viennent même des temps anciens. As-tu le mot de passe ? Galette saucisse, ok, c'est bon, c'est toi. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, c'est des trucs très bêtes, mais quand on a quelqu'un en face de... On a au téléphone avec quelqu'un, ça a l'air d'être lui, mais des petites vérifications toutes bêtes hein, qui disent « Est-ce que tu as le mot de passe ?» Et comme ça, ce petit mot de passe qu'on a entre nous dans l'entreprise ou ce genre de choses, on le change de temps en temps. Et c'est la petite phrase qu'il faut connaître. Et si on n'est pas la petite phrase en face et que la personne en face ne répond pas, on peut se dire que ce n'est pas lui. Quoi, voilà. Et ça coûte zéro balle. Donc, il faut juste s'en rappeler. Mais un truc marrant, généralement, tout le monde s'en rappelle.
Merci donc Clément Lorvao, Jean-Pierre Marbet, Franck Bataille et Sandy Bézot pour votre intervention sur ce sujet passionnant et dont on parlera encore pendant, dont on pourrait parler encore pendant quelques heures et dont on parlera encore pendant des mois, je pense. Merci à tous les quatre et merci à vous d'avoir suivi cette table ronde. Voilà pour cette table ronde qui, j'espère, vous aura appris des choses et vous permettra d'être plus vigilant sur vos usages numériques. Merci à tous nos invités d'avoir participé à cette table ronde et merci à Loir-et-Cher Tech de nous avoir accueillis. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de La Lorgnette. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. À très vite et bonne écoute de Studio ZEF.